n'est-ce pas?
Mesdames et messieurs, monsieur le chef traditionnel, tout d'abord, je voudrais juste vous demander votre indulgence de la non-formalité de mon discours. Ce n'était pas prévu. Mais vu l'intérêt que je porte personnellement à ce sujet, lorsqu'on m'a demandé, j'ai dit, c'est l'occasion pour moi de parler du cœur. Et je voudrais vraiment saisir cette occasion tout d'abord pour féliciter les organisateurs d'avoir nous rassemblés tous pour cette discussion très importante autour d'une problématique. Surtout les différents organisateurs, organisations, les acteurs qui agissent autour de la problématique de la santé d'une fille, la santé de la reproduction, la santé sexuelle, et aussi pour mon cas personnellement, le VIH. Qui tourne autour. Je voudrais féliciter dans le sens où
accessibles au niveau public, et ça nous donne une idée sur la gravité et l'ampleur de cette problématique qui nécessite qu'on en discute d'une façon bien structurée et qu'on puisse développer un plaidoyer qui va nous ramener à assurer une meilleure protection des personnes qui se trouvent dans cette vulnérabilité ou bien dans les conditions de risque qui sont liés à un avortement clandestin. Les quelques études que j'ai vues nous indiquent généralement qu'autour, sur les personnes enquêtées, généralement c'est des enquêtes de petite taille, on se retrouve entre 23 et 26% des femmes qui ont eu une expérience dans leur vie d'avoir un avortement. C'est à peu près 1 sur 4. Ce n'est pas quelque chose à dire, non, on ne peut pas en parler parce que c'est illégal. Parce que ça met en risque la vie d'une femme sur quatre au Cameroun. Maintenant, quand on essaie d'analyser un petit peu plus rapidement, on voit que pour la plupart, ces pratiques se font au jeune âge, c'est-à-dire l'âge de l'adolescence jusqu'à 23, 24, 25, et puis ça commence à se réduire en fréquence. Et que chez ces femmes qui ont eu à faire face à cette situation de devoir procéder à un avortement, il y a presque, je crois, le tiers qui se trouve dans une situation d'avortement répétitif. C'est-à-dire qu'une fois on a fait l'expérience, ça marche, ça continue. Donc ce qui est intéressant de voir dans ces études, c'est que dans la tête des jeunes filles et des femmes dans ces situations-là, ce qui est plus important et plus stressant dans leur tête, c'est pas est-ce que c'est légal ou c'est pas légal, mais d'abord est-ce que c'est accessible ou non, et puis est-ce que c'est safe, soft, c'est-à-dire que c'est pas, il y a des risques ou non. C'est les deux conditions préalables. Bien sûr, tout cela se pratique dans un cadre légal, et même lorsque il y a des situations où la pratique de l'avortement est légalisée, notamment en cas de viol et d'inceste et tout ça, les personnes peut-être ne savent pas ou ne peuvent pas se permettre le coût de l'opération. Donc cela nous ramène à raisonner de différentes manières. Non seulement de raisonner comme nous le faisons aussi dans la réponse VIH, à répondre à cette situation de vulnérabilité ou de risque en assurant que les services sont de qualité et qu'il y a des choix qui sont disponibles, qu'il y a un cadre qui protège. Mais généralement, on doit aller même à la situation de vulnérabilité qui a créé ce risque. Et notamment quand on parle des grossesses chez les jeunes filles, qu'est-ce qui a créé leur vulnérabilité à tomber enceinte à 13 ans, à 14 ans, à 15 ans déjà? Il y a une étude que j'ai vue, là je l'ai en face de moi, et je trouve ça très intéressant, les raisons pour lesquelles ces femmes décident d'avorter. La raison principale à 30%, ça c'est une des études, mais c'est des tendances qui sont générales. Le désir de rester dans le corps. Question numéro 1. Cet indicateur à 30% nous montre la nature des personnes qui s'adonnent à cette pratique, mais aussi le besoin. Maintenant, il y a 2 ans, 3 ans, n'est-ce pas, cette décision ministérielle que les jeunes filles enceintes doivent continuer à l'école. On applaudit très fortement le Cameroun, c'est peut-être le seul pays dans la région qui a adopté cette décision. C'est très bien. C'est très bien, parce que au moins ça va répondre à cette évidence que nous avons en face de nous, que cette peur de rater tout le reste de sa carrière ou bien de la continuité de l'éducation, elle serait éliminée parce que légalement une jeune fille enceinte doit continuer son éducation pour réduire les autres vulnérabilités. Félicitations le Cameroun, ça c'est un très bon exemple. Il y a aussi, vient en deuxième lieu, la peur des parents. Et il y a peut-être en quatrième lieu, c'est les difficultés financières. Donc, les situations de vulnérabilité économique de ces jeunes filles qui se retrouvent, peut-être après avoir eu une situation de tomber enceinte, et on connaît toutes les vulnérabilités, il faut qu'on considère de travailler sur cette situation qui ramène une jeune fille à tomber enceinte, et par la suite, de voir dans quelle mesure les difficultés financières puissent jouer un rôle dans la réponse. Et notamment, il y a, je pense, un travail d'une organisation communautaire qui a couvert les filles, surtout, ou bien les femmes, qui ont été victimes de violences sexuelles. De violences basées sur le genre en général, mais surtout sexuelles. Et c'était intéressant de voir qu'une personne, une jeune fille violée, lorsqu'elle va chez le centre de santé, elle reçoit 2 prestations de base, un test VIH, un test de grossesse, mais pour le reste, elle doit payer. Et donc ça, c'est un élément qu'il faut qu'on discute, qu'il faut qu'on voit. Peut-être qu'il y a un changement légal ou bien réglementaire qui doit être fait pour assurer qu'une personne qui est déjà en situation de vulnérabilité ne doit pas se retrouver plus vulnérable parce qu'elle est inconnue pour pauvre. Donc, la situation est complexe. Et le début de la solution de cette situation complexe commence par des débats comme ça. C'est pour ça que je me sens très motivé, très excité, très intéressé. Et je suis particulièrement ravi de vous entendre, Madame la Directrice, de dire que vous voulez engager un dialogue social et politique mieux structuré sur ce sujet. Au nom du système des Nations Unies, le programme conjoint de réponse sur le VIH qui ramène ensemble l'UNICEF, l'UNICEF, toutes les organisations qui travaillent sur le VIH, et dans la mesure où nous travaillons sur la réduction des vulnérabilités et des inégalités qui créent cette situation d'infection VIH, infection avec les IST, aussi les avortements, aussi les grossesses indésirées, là-bas c'est la même chose. Dans ce sens, je voudrais m'engager personnellement et au nom de mes collègues du système des Nations Unies qu'on va vous accompagner dans le de ce dialogue social, politique mieux structuré qu'on espère sera effectif à améliorer la situation. On compte sur vous, Madame la Sénatrice, aussi, de nous aider là-dessus. Merci encore une fois.
assuré que nous avons remédié au problème lié au micro, parce que nous avons une journée intéressante qui sera surtout riche en discussions ou en débat. Nous mettrons tout en œuvre pour que les micros soient la pompe pour nous permettre d'avoir une belle discussion tout au long de cette journée. En remerciant le représentant pays de l'ONU-SUDA pour cet engagement solennel qu'il vient de prendre, est-ce qu'on peut encore se faire l'audition? Merci infiniment, monsieur le représentant de l'ONU. Alors, elle, madame Séouenadi, durant son propos introductif, vient de très loin, de la Côte d'Ivoire, pour venir palper du doigt les réalités du Cameroun, pour venir voir d'elle-même par combat raconter après ce qui se passe au Cameroun, et les échanges pourront confirmer cela par la suite ou pas. Je voudrais qu'on applaudisse très fort la régionale du Centre-Ouest pour son mot à son tour. S'il vous plaît, on peut applaudir plus fort que ça. Je sens que ça fait un peu timide. Est-ce qu'on peut se réveiller à applaudir très fort? Merci.
Madame, vous avez
la parole. Le micro n'est pas à la pointe, mais je pense que pour faire entendre du chaland, vous allez faire l'effort de l'utiliser ici.
Monsieur le représentant du Premier ministre, monsieur le représentant du ministre de la Santé, madame la sénatrice Françoise Pouinet, madame la présidente de Dynamique Femmes, monsieur le représentant pays d'ONU-SIDA, madame la clarificatrice des valeurs, messieurs, mesdames et messieurs distingués invités en vos grades, titres et rangs, chers partenaires et amis, c'est avec une grande émotion et un profond sentiment de responsabilité que je prends la parole aujourd'hui à l'occasion de ce deuxième forum national pour la lutte contre les avortements clandestins au Cameroun. Je tiens tout d'abord à exprimer ma gratitude à Dynamique Femmes pour cette initiative, au ministère de la Santé publique pour son patronage, à madame la sénatrice Françoise Pouinet pour son parrainage, ainsi qu'à toutes les entités ici présentes, en particulier les structures de la société civile, pour leur engagement indéfectible pour cette noble cause. L'avortement clandestin est une réalité douloureuse qui continue de toucher de nombreuses femmes dans notre pays. Oui, je dis notre pays parce que j'ai beaucoup entendu Côte d'Ivoire, c'est vrai. Mais l'information qui est encore plus vraie, c'est que je suis née au Cameroun. Wow. Donc, et je suis contente de revenir et de pouvoir adresser cette question à vos mêmes titres. Les chiffres sont alarmants. Près d'un décès maternel sur quatre est lié à des avortements non sécurisés. 24,2% selon une étude récente menée en 2017. Les données issues du DHIS2 classent clairement les avortements clandestins parmi les toutes premières causes de mortalité maternelle au Cameroun. Ces statistiques, quoique sous-estimées, ne sont pas seulement des chiffres. Ces statistiques représentent des vies perdues, des familles brisées et des communautés endeuillées. Le Centre Audace, en tant que mécanisme régional innovant, a pour mission de galvaniser l'action nationale et régionale pour des solutions durables en faveur de la réduction de la mortalité et de la morbidité maternelle liée aux avortements non sécurisés. Nous croyons fermement que chaque femme a le droit à une santé sexuelle et reproductive de qualité et que ce droit doit être respecté et propagé. Partant du constat que les systèmes de santé en général dans la région ne parviennent pas encore à assurer de manière suffisante la promotion de la santé des populations et une prise en charge adéquate et globale des cas de maladie, dans le cas du Cameroun, la stratégie nationale de développement SND30 engage les autorités camerounaises en lien avec l'ODD3 relatif à la santé à réduire substantiellement le taux de mortalité maternelle, dont l'une des causes principales est liée aux avortements non sécurisés. Il faut le reconnaître et s'en féliciter, le gouvernement camerounais, par l'intermédiaire du ministère de la Santé publique, a ces dernières années consenti d'énormes efforts qui lui ont permis de réduire la mortalité maternelle au Cameroun. Les statistiques officielles montrent que la mortalité maternelle est passée de 782 décès pour 100 000 naissances vivantes à 406 décès pour 100 000 naissances vivantes entre 2012 et 2018, soit une baisse appréciable de 40%. Néanmoins, ces statistiques restent en deçà du troisième objectif de développement durable, qui est de moins de 70 décès maternels pour 100 000 naissances vivantes. À l'instar de la plupart des pays de la région, malgré la ratification du protocole de Maputo, l'application de ces dispositions reste limitée au Cameroun. Les lois nationales n'ont pas été amendées pour aligner complètement le code pénal avec les dispositions du protocole de Maputo. Les exigences judiciaires strictes rendent l'accès à l'avortement sécurisé difficile, même dans les cas autorisés par la loi. Cela s'explique en partie par le fait que la problématique de l'avortement reste l'une des questions les plus complexes et sensibles que l'on puisse aborder en santé publique. Entre l'angle de la santé publique, celui des droits humains, celui de l'autonomie corporelle ou encore les réalités socio-culturelles et le tabou qui entoure la question, les passions se déchaînent chaque fois que l'on aborde ce sujet. Il s'agit là, à n'en pas douter, d'un problème à la fois complexe et inquiétant qui nous interpelle tous, dans la mesure où le niveau préoccupant de la mortalité maternelle, néonatale et infantile reste lié à plusieurs facteurs identifiables au niveau individuel, institutionnel, mais aussi communautaire. Les conséquences d'un tel phénomène ont de fâcheuses répercussions sur le développement individuel et collectif des femmes, particulièrement celles du monde rural, qui sont confrontées à la pauvreté avec un état nutritionnel précaire et qui paient le plus lourd tribut. Si pour nous le trépied éducation complète de la sexualité, planification familiale et accès aux services sûrs et sécurisés reste incontournable pour adresser la question de la réduction des avortements clandestins, nous sommes conscients qu'il faut pouvoir mettre en œuvre ce trépied en tenant compte des réalités contextuelles. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'avoir réuni des personnalités renommées des milieux universitaires, judiciaires, sanitaires et de la société civile qui vont livrer leur vision au cours de ce forum. La présence de tant de compétences avérées réunies pour une même cause peut être perçue comme la manifestation d'un engagement à enraciner la collaboration autour de ce qui unit le plus intimement les communautés, à savoir la préservation de la santé de la mère et de l'enfant. Le dialogue et l'interaction entre les différentes composantes de la société sont des moyens d'action essentiels dans la lutte contre les avortements clandestins et la promotion efficace des droits sexuels et reproductifs des femmes. Pour mettre un terme au drame qui se joue pourtant sous nos yeux, il est primordial, à notre sens, d'amener la société à en parler. Les décès maternels dus à des avortements clandestins et à risque sont certes évitables, mais il nous faut pour cela susciter des changements profonds dans notre perception des soins d'interrupteurs volontaires de grossesse complet et de la stigmatisation que cela suscite. Il est de notre responsabilité collective de travailler ensemble pour créer un environnement où les femmes se sentent soutenues et informées, où elles peuvent accéder à des services de santé reproductive sécurisés, mais aussi de qualité. Nous devons également plaider pour des politiques publiques qui prennent en compte les réalités et les besoins des femmes, en particulier les femmes les plus vulnérables. Je pense à toutes les adolescentes, comme Zita, tombées enceintes à la suite d'un viol collectif dont l'un des agresseurs était son oncle. Je nous invite à avoir les milliers de Zita à l'esprit durant toute la durée de ce forum. Et je suis convaincue que ce forum sera une plateforme d'échanges fructueux, d'objectifs et de collaborations qui seront renforcés. Ensemble, nous pouvons faire la différence et réduire l'impact social des avortements clandestins au Cameroun. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite des discussions enrichissantes et constructives.
Merci infiniment, Audace, pour cette prise de parole.
Vous avez constaté avec
moi que le micro est un peu plus influencé quand je le tiens.
Nous espérons
que ça va se poursuivre ainsi et que les solutions vont être trouvées pour nous permettre d'avoir des micros assez sensibles pour nous permettre justement d'avoir de bons échanges. Sincèrement, nous vous présentons encore nos excuses pour la qualité sonore. après laquelle nous évoluerons depuis ce matin, et même les différents petits points que vous pourrez constater tout au long de ce forum. Mais nous promettons d'améliorer au fur et à mesure que la journée avance. Alors, après le centre d'Asse, nous avons la possibilité de passer la parole
à quelqu'un de spécial, personnellement, que j'ai découvert durant l'organisation de ce forum. Vous allez repasser tout.
Les bien, je vois, je peux.
Alors, le micro, entre dit, je vais couper le boucan tout à l'heure, là, que je continuerai sur le boucan. Alors, je vais parler sans micro. Je disais, quand on regarde la télévision, on voit la sénatrice très active. Mais j'ai envie de vous dire, on ne voit rien du tout. Pourquoi je le dis? Parce que nous ne la connaissons pas personnellement, mais dans le cadre de l'organisation de ce forum, pas seulement pour Dynamique Femmes, mais j'ai appris qu'elle fait énormément pour notre pays. Je voudrais, avant de l'introduire, qu'on applaudisse très fort pour la sénatrice, s'il vous plaît. C'est une dame qui est très active. Et parce qu'elle est très active, elle est sensible aux initiatives qui interpellent. C'est pourquoi lorsque Dynamique Femmes, à travers sa présidence, a sollicité Madame Françoise Fouine, aucune difficulté à dire oui pour être la marraine de ce forum. Je voudrais qu'on applaudisse très fort pour la marraine. Je vais prendre la parole tout à l'heure pour son côté. Est-ce qu'on peut applaudir très fort pour la marraine? Merci infiniment, Madame la marraine, pour tous vos efforts. C'est grâce à vous aussi que nous sommes venus ici. Et nous savons que les résultats, nous allons continuer à les engranger au fur et à mesure. Ce n'est que la deuxième édition. Nous sommes partis pour avoir au moins 100 éditions pour ceux qui seront en vie et même pour nos enfants pour la suite. Donc, Madame la marraine, vous allez rester assise. Et nous allons vous permettre de lire votre discours de votre place, s'il vous plaît. Et nous allons vous demander à ceux qui sont au Shabbat de bien dresser un peu les oreilles pour être sûr que sa voix vous parvient depuis le Shabbat. Merci, Madame la marraine.
Merci.
Celle-là qui est soucieuse du développement de notre pays.
Madame la présidente exécutive, au nom de toutes ces femmes, au nom de tout le monde qui vous écoute en ce moment, je vous dis merci. L'honneur et choix de prendre la parole en ce lieu à l'occasion de ce forum pour la lutte contre les avortements clandestins au Cameroun. En effet, l'avortement clandestin est un véritable fléau. Il est devenu un problème de santé publique au Cameroun, tant l'ampleur du phénomène est remarquable et conséquences dynamiques pour les femmes, les jeunes filles qui pratiquent ainsi que pour leurs familles, qui sont certainement quelquefois violemment éprouvées. Ces pratiques d'avortement clandestin conduisent très souvent à une infection ou une infertilité pendant l'acte. Oui, parce que nous avons nos enfants, parce qu'ils ont fait ce genre d'avortement, aujourd'hui se retrouvent avec des diplômes, avec des maris et sans enfants. Le Cameroun est un pays en voie de développement. En tant qu'a besoin des filles, bien entendu, en parfaite santé. Si nous ne sommes pas en santé, il serait impossible d'atteindre l'émergence en 2035. Cette émergence souhaitée par le président de la République, Paul Biya. Faire naître des enfants sains et viables reste donc un impératif fort pour notre pays. Quand bien même l'interruption volontaire de la grossesse est autorisée par la loi dans les circonstances d'un cas de grossesse résultant d'un viol, un cas de grossesse mettant en danger la santé de la maman ou de la question de mœurs, un cas de grossesse résultant de l'inceste, cela doit se faire dans le respect de la loi et du protocole médical consacré à cet effet. Ce combat dans lequel je m'engage aujourd'hui ici, avec vous, Madame la Présidente, est celui de la femme autonome, de la femme entrepreneur, mais surtout de la femme digne, responsable, qui sait prendre quand il faut les décisions qui lui éviteront d'avoir recours à ce genre de pratique. Dieu seul sait, nous les femmes, nous sommes fortes, mais nous savons bien que du fait de la stigmatisation, de la honte, de quand dira-t-on, on se retrouve dans la situation des avortements clandestins. Oui, parce que les femmes vivent de la stigmatisation. Je suis très heureuse de voir que les femmes sont venues très nombreuses. Oui, parce que nous sommes le moteur et le vecteur de la cellule familiale. Et c'est nous qui devons porter cette bonne nouvelle. Ce combat, c'est notre combat. C'est d'abord le combat de la femme. Responsabilisons nos enfants depuis les cellules familiales. Je ne peux pas continuer sans revenir et dire encore une fois de plus merci à Madame la Présidente de l'Association Dynamique Femmes d'avoir porté le choix sur ma modeste personne. Je mettrai tout en œuvre, Madame la Présidente, pour faire sonner cette cloche le plus loin possible. Et nous allons compter sur le ministère de la Santé publique qui est là. Nous allons compter sur le système des Nations Unies qui est représenté ici. Et nous allons compter sur le Premier ministre, chef du gouvernement. Parce que oui, environ 4000 jeunes. Les écoles secondaires sont infectées de VIH-Sida. Mais c'est grave. C'est grave. C'est grave. Nous devons sortir d'ici, aller chacun en ce qui le concerne, parler de cette bonne nouvelle. C'est nous qui devons aller évangéliser dans nos familles, dans nos associations, chez nos voisins. Nous ne devons plus avoir honte. Ce n'est plus un sujet tabou que de demander à nos enfants de porter les préservatifs. Quand je parle de la honte, je vais ici vous raconter une petite histoire parce qu'une dame a vu sur les réseaux sociaux, je ne sais pas si elle est dans la salle parce que je ne la connais pas. Elle m'a téléphoné hier. Elle me dit, mais mamie Nagabou, j'ai vu sur les réseaux que vous serez à tel endroit demain. Je vais m'y rendre. Parce que mon mari a violé ma fille. Et ma fille est tombée enceinte de mon mari. Et je suis allée faire effectivement cet avortement clandestin et ma fille a perdu l'utérus. Je ne sais pas si elle est dans la salle, parce qu'elle m'a dit, mamie Naga, je viendrai discrètement là-bas suivre. Parce que je suis concernée. Donc n'ayons pas honte. Parce que les femmes passent le temps à tout cacher. On est venu ici aujourd'hui pour s'ouvrir, pour partager l'expérience. Partager votre expérience. Ce que vous vivez dans les familles, pour qu'ensemble nous construisions ce projet qui est important pour notre pays, qui est important pour le président de la République. Parce qu'on ne le dira jamais assez, le Cameroun ne peut pas se développer sans des jeunes en bonne santé. Et c'est pour cette raison que j'ai accepté. Sans réserve, j'ai dit oui à Dynamique Femme. Et je serai là, et vous pouvez compter sur moi, pour qu'ensemble, nous aidions les femmes à rester saines, le corps d'esprit, pour leur bien-être et celui de leur progéniture. Le combat contre l'avortement est donc une affaire pour tous. Ensemble, nous devons apprendre à adopter les comportements garants d'une vie responsable, organisée afin d'éradiquer les avortements clandestins dans notre société. À ACLIA, Madame la Présidente, I will continue to put all my energy to support this initiative. Oui, ensemble nous pouvons, pour que vive le Dynamique Femme, que vivent donc tous les âmes de bonne volonté qui croient en ce projet d'actualité, que vivent toutes ces femmes, ces hommes, qui sortiront grandis davantage d'ici demain, que vive le Cameroun et son ministre chef, son excellence première. Je vous remercie de votre bienveillance. Vous avez vu quand Madame la charismatique prend le micro. Je crois, et c'est pour ça que même le micro croit à sa gauche. Je vous remercie.
Thank you so much. Thank you so much, Madame for your words. Thank you so much for your commitment. Thank you so much for your engagement. also, thank you so much for support that you have followed of this forum. Thank you so much. Hello, are we together?
Yes.
Are you people getting me?
Yes.
Are you people getting me now? Okay, nous célébrons le retour. On va anticiper jusqu'à 17h aujourd'hui. Merci beaucoup. Now, for the
good of this
forum, I will...
C'est toi qui as le bras au micro. Le caresse toi.
Alors, je veux bien croire que le micro est de l'autre côté. Je veux bien le croire. Alors, after the word of our senator, I will now invite you to share. The personal testimony of Minister of Providence, Dr. Ibongo, thank you so much for your words. Please, a round of applause for your words.
Thank you, Mr. MC, for your kind words of introduction. And after a brilliant show by the matron of this important ceremony, I don't know how I'm going to do it. But I thank God to have placed me here because this is a cause I defend. And this is what I do. This is to help the country eradicate this very negative phenomenon. Monsieur le Representant, Service du Premier Ministre, Madame la Representante du Ministre de la Protection de la Femme et de la Famille, Monsieur le représentant de l'ONU Sudan, Madame la Directrice Générale Sancho Baz, Les Majestés, les chefs traditionnels et autorités religieuses ici présentes, Mesdames et Messieurs les représentants des partenaires techniques et financiers du secteur de la santé, Mesdames et Messieurs les représentants des administrations publiques et privées, Mesdames et Messieurs les représentants de la société civile, personnalités ressources, distinguées et invitées, Mesdames et Messieurs, il m'est très agréable de prendre la parole dans cette somptueuse salle de réunion de la Conférence épiscopale du Cameroun pour présider au nom de Son Excellence Monsieur le Ministre de la Santé publique la cérémonie solennelle d'ouverture de la deuxième édition du Forum national de lutte contre les avortements clandestins au Cameroun qu'il a bien voulu placer sur son au patronage et qui va se dérouler sous le thème Ensemble pour la prévention des avortements clandestins au Cameroun. Ladies and gentlemen, the African Union Maputo Plan of Action prescribes universal access to comprehensive sexual and reproductive health services in Africa, which include, amongst others, adolescent sexual and reproductive health, family planning, safe abortion, etc. It is therefore a pan-African objective to contribute to the sustainable development goal number 3 through a well-defined framework on sexual and reproductive health and rights. En cette circonstance, Mesdames, Messieurs, je voulais vous exprimer toute mon appréciation pour vos présences respectives à cette rencontre qui témoigne de l'intérêt que vous portez aux questions qui touchent à la promotion de la santé publique et aux efforts du gouvernement d'améliorer chaque jour davantage le bien-être des populations dans notre pays. De façon particulière, permettez-moi de remercier son Excellence, Madame le ministre de la Promotion de l'Enfant et de la Famille, qui à travers la présence de sa représentante personnelle à cette cérémonie, nous rassure de son accompagnement toujours constant et inconditionnel. Qu'il me soit également permis de saluer et de remercier singulièrement Madame la sénatrice
Françoise
Poinet,
qui
qui nous fait l'honneur de sa présence pour son soutien personnel à l'organisation et à la tenue de cette
Madame
Sénateur, we want to appreciate you so much, especially accepting with all humility the invitation of Dynamic Farm, whose efforts have been rewarded today by your personal presence and support. And it's a sincere call I'm making to all those who are in the position of decision making vis-à-vis social ills like illegal abortion to join us in this fight. Thank you very much, Ms. Bobala, and I will do transmit the message and information to His Excellency the Minister of Public Health and Rehabilitation. Mais je m'en vais aussi à l'endroit des groupes intertechniques, financiers nationaux et internationaux pour leur implication à l'organisation des présentes assises. Mesdames et messieurs, le décret numéro 2013-093 du 3 avril 2013 portant organisation du ministère de la Santé publique confie à ces derniers et notamment à sa direction de la santé familiale, que je représente aussi ici, les missions suivantes. De l'élaboration et du suivi de la mise en œuvre de la politique gouvernementale en matière de la santé et de la reproduction, de l'élaboration et du suivi du programme de lutte contre la mortalité maternelle et infantile, de la coordination et de la mise en œuvre des activités relatives à la santé et de la reproduction. L'attribution de ces missions à notre département ministériel justifie à suffisance l'intérêt que nous portons aux travaux de ce forum de lutte contre les avortements clandestins, dont la pratique persistante dans notre pays prend dangereusement des efforts quotidiennement consentis pour l'atteinte des objectifs de réduction de la mortalité maternelle et infantile juvénile à nos hommes et tel que défini par la stratégie sectorielle de la santé 2016-2030. En effet, en 2009, sous l'impulsion du président de la République, Son Excellence M. Paul Biya, le Cameroun s'est doté d'une vision d'horizon 2035 énoncée comme suit. Le Cameroun est un pays émergent démocratique et une justice unie à sa diversité. Dans cette vision, notre pays s'est assigné quatre objectifs généraux, parmi lesquels celui de réduire la pauvreté à un niveau socialement acceptable. La réalisation de cette politique dans le domaine de la santé nécessite d'améliorer l'offre de soins et de services et de garantir l'accès de la majorité aux services de santé de qualité afin de relever l'enjeu du développement du capital humain qui consiste à doter la population camerounaise d'un bon état de santé, d'éducation, de connaissances et d'aptitudes professionnel. Pour y parvenir, le secteur de la santé est orienté vers une vision qui en découle de la vision 2035 du chef de l'État et qui est formulée à cette au Cameroun où l'accès universel aux services de santé de qualité est assuré pour toutes les couches sociales de l'horizon 2035 avec la pleine participation des communautés. Et il est de l'actualité que la couverture santé universelle a comme l'un de son package, au sein de son package, la lutte contre la mortalité maternelle et spécifiquement la lutte contre l'avortement clandestin. Donc,
dans ce forum
qui s'ouvre ce jour, qui va être un grand rendez-vous, vous donner du savoir qui vous permettra de développer un ensemble de stratégies qui devront être modélées par le respect des lois, des règlements, des orientations effectives gouvernementales, de même qu'elles s'amélioreront au contexte particulier de notre cher et beau pays. Ainsi, pour la réalisation spécifiquement des ODD numéro 3.1 et numéro 3.2, qui prévoient respectivement d'ici 2030 de faire passer le taux mondial de mortalité maternelle. Je dis bien le taux mondial de mortalité maternelle au-dessous de 70% de naissances vivantes et d'éliminer les décès évitables de nouveau-nés et d'enfants de moins de 5 ans. Et si la stratégie sécurité de la santé préconise d'assurer une prise en charge globale de soulever les normes de problèmes de santé de la mère, du nouveau-né, de l'enfant et de l'adolescent, du niveau communautaire et dans au moins 80% des structures sanitaires d'ici 2030. Mesdames et messieurs, au cours des 5 dernières années, 23,1% des grossesses ont été provoquées et le taux d'avortement des femmes est de 15 et 35 ans se situe entre 30 à 40%, c'est-à-dire une femme sur 4 aura connu un avortement clandestin. Ce sont des chiffres de CANAFOR et du ministère 2018. Donc environ 70% des avortements sont provoqués. Donc vous avez un film, 30% qui sont spontanés. Pendant ces 10 jours de travaux, vous aurez à développer de manière participative des stratégies et des mécanismes de vente, d'une part, affiner davantage les politiques gouvernementales de promotion de la santé sexuelle et reproductive et de lutte contre les avortements clandestins et d'autre part, dissuader la femme et la jeune fille camerounaise à recourir à la pratique des avortements clandestins. Il s'agira également, au cours de ces rencontres, de capitaliser les stratégies et expériences de prévention des avortements clandestins réussis en Afrique et à travers le monde, au moyen de contributions des experts dont nous saluons la présence à ces assises. Il s'agira, à la fin de nos travaux, de formuler des recommandations susceptibles d'améliorer la pertinence et l'efficacité de notre action dans les domaines de la santé sexuelle et reproductive, selon les récentes directives de l'OMS adaptées au contexte camerounais. La qualité des conférenciers et des différents thèmes qui seront à développer augure du succès de ces travaux que je souhaite enrichissant pour tous les participants. C'est donc tout confiant à la pertinence des résultats auxquels vous aboutirez que je déclare ouvert ce forum national de lutte contre les avortements clandestins au Cameroun sur le thème Ensemble pour la prévention des avortements clandestins au Cameroun. pour que vive le partenariat public-privé, vive la coopération internationale, vive le Cameroun et son prestigieux et illustre chef au président de la République, son excellence populaire. Je vous remercie pour votre aimable attention. Merci.
For this opening word, the forum is now open. We can now continue with all kind of patience, all kind of happiness, all kind of talk and forum for today. Thank you so much for opening word. Now, when we talk about this topic about the man Clarissa, it's actually quoi exactement? À quoi ça renvoie? Nous avons de longues sessions d'échange. Nous avons des moments de discussion.
Et il est important,
avant tout cela,
de s'accorder,
de comprendre, d'examiner en profondeur la thématique qui nous réunit ce jour et demain. Je vous ai invité ici, parce qu'il s'agit de clarification des valeurs.
Le docteur Okani,
qui est juriste, qui est
experte
en genre, membre du Parlement des écrivains francophones, elle est consultante internationale,
ancien
vice-recteur, ancien membre du conseil de l'ESUMA Douala. Je voudrais que nous applaudissions très fort pour ici, pendant 20 minutes, cette leçon de l'univers pour avoir été chargé de faire pour nous, mon docteur Okani. Je vous demande d'applaudir encore très fort parce que je suis content. Merci. Docteur Okani, vous en avez pour 20 minutes exactement. Merci.
Je ne sais pas si je vais utiliser ce micro, tellement il trahit les gens.
Oui, prenez-le. Prenez-le. Les deux ont été gérés. Prenez-le.
Vous avez l'impression de la marée. Vous allez
Madame la sénatrice, monsieur le représentant du premier ministre, monsieur le représentant du ministre d'État, à savoir celui de la justice et garde des Sceaux, madame la directrice régionale de l'ODA, monsieur le représentant de l'ONU SIDA, et avec lui, je m'adresse à toutes les autres organisations internationales, que ce soit du système auquel j'ai une autre existence fait partie, en étant chargé du programme au PAN, et les représentants des autres départements ministériels, distingués invités en vos grades et titres respectifs. Je suis vraiment honoré, que dis-je, privilégié d'être là aujourd'hui. Et ce jour n'a pas été choisi au hasard, figurez-vous. Le 28 septembre, c'est la journée mondiale, c'est la journée internationale pour lutter contre l'avortement clandestin ou alors pour le droit à l'accès, n'est-ce pas, à l'avortement sécurisé. Permettez-moi donc de nous souhaiter, de vous souhaiter bonne fête. Ça, c'est pour commencer. Sinon, je voudrais rappeler à l'attention des uns et des autres que tout être humain a des droits et des droits fondamentaux consacrés dans les différents textes nationaux et internationaux que le Cameroun a ratifié et a donc fait sien. Je ne vais pas revenir dessus. Je peux citer la CEDEF, je peux citer, n'est-ce pas, le protocole de Maputo sur lequel nous allons largement nous appesantir. Et parmi ces droits, il y a justement, n'est-ce pas, le droit à la vie qui fait débat, à la liberté, à la sûreté de sa personne, ainsi de suite. Et je suis privilégiée, honorée d'avoir hérité d'un titre, je ne l'avais pas en arrivant. Je l'ai suivi tout à l'heure et je vais essayer surtout de le mériter, à savoir clarificatrice des concepts ou des valeurs. Alors, Quels sont ces concepts? Il y en a plusieurs. Et les uns et les autres ont des droits, mais il se trouve quand même qu'il y a achoppement entre ces différents droits. Et il va falloir comprendre, savoir comment concilier les droits des uns et des autres. Le Cameroun est une société patriarcale. Et vous savez ce que ça veut dire. Mais les mœurs évoluent et inéluctablement, il va falloir changer, n'est-ce pas, évoluer avec ces mœurs. Alors, on parle beaucoup d'avortement. Il faut d'abord savoir c'est quoi l'avortement. Pourquoi est-ce qu'on avorte? Et comment est-ce que ça se passe pour qu'on puisse qualifier cela de clandestin ou alors de légal? Je voudrais dire à cet effet que le droit de la femme à disposer de son corps ou non, quand c'est reconnu, lui ouvre l'accès, n'est-ce pas, à l'avortement ou non. Mais il faut quand même savoir qu'il y a précarité de ce droit. Il a été reconnu, mais ce n'est pas un acquis qui est constant. J'en veux pour preuve ce qui est arrivé, n'est-ce pas, l'année dernière aux États-Unis, où après pratiquement un demi-siècle de droit, le gouvernement conservateur est revenu sur ce droit, ce qui a suscité, j'allais dire, un tsunami mondial. Tsunami mondial, pourquoi? Parce que je vais prendre quelques réactions, il y en a eu à travers le monde, mais je pense surtout à celle des Françaises qui, ayant subodoré, n'est-ce pas, le danger, ont entrepris des démarches, et c'est à tout à leur honneur, d'avoir réussi à constitutionnaliser ce droit qui dorénavant va quand même être un peu plus difficile à être attaqué. Alors, pour faire ce travail de clarification, je voudrais commencer par déconstruire, parce que si on dit qu'il y a clarifié, c'est qu'il y a, il y a des polémiques, il y a des controverses. Alors, il y a controverse sur quoi? Et pourquoi il y a controverse? Est-ce que les arguments tiennent la route? Est-ce que vraiment ils sont pertinents? Et donc, je vais commencer, avec votre permission, de déconstruire, c'est vrai, la critique est aisée, mais là, ne l'est pas. Donc, je vais m'efforcer, après avoir déconstruit, n'est-ce pas, de reconstruire. Alors, commençons par la déconstruction. Pour faire la déconstruction, qui est une œuvre titanesque en sa délicatesse, je me suis permis de retenir trois secteurs, parmi lesquels, quand on parle d'avortement, les drapeaux commencent à être, n'est-ce pas, levés. Il y a d'abord la religion, il y a les mœurs, et enfin la législation. Alors, dans les mœurs, dans la religion, on va dire que en réalité, aucune religion au monde, que ce soit les religions chrétiennes, que ce soit les religions catholiques, que ce soit les bouddhistes, les islamistes, les musulmans, aucune religion, et même au plan de vue idéologique, n'a été favorable aux femmes. Aucune. Même pas. On a dit, on a stigmatisé, n'est-ce pas, le capitalisme, mais ce n'est pas seulement le capitalisme. Les femmes n'ont pas été mieux loties avec le socialisme. Qu'à cela ne tienne, je vais revenir maintenant sur ce qui pose problème au niveau des religions. C'est précisément la religion catholique à laquelle pourtant j'appartiens, mais il faut savoir quelquefois prendre du recul quand il le faut, qui compte parmi les farouches défenseurs, n'est-ce pas, de l'avortement. À tort ou à raison, on le verra bien. Alors, ils se fondent sur quoi? Ils se fondent sur ce que un des 10 commandements dit, tu ne tueras point. C'est vrai, ce n'est pas bien, mais il faut qu'on s'accorde sur une chose ici. Est-ce que l'avortement consiste effectivement à tuer? S'agit-il d'êtres humains dans ce cas d'espèce? Et on va donc comprendre si effectivement, le principe sacré de tu ne tueras point a toute sa raison d'être. tu ne tueras point. L'avortement, la définition que n'a malheureusement pas eu à faire le législateur camerounais dans le code pénal, lui s'est simplement contenté de commencer à sévir. L'avortement, en principe, c'est l'interruption, n'est-ce pas, d'une grossesse. Et la grossesse commence et elle se développe avant qu'on aboutisse à un être humain. Donc, ce sur quoi se base, se fonde la religion catholique, c'est que il y a déjà un être humain dès le départ. Or, les sachants en matière scientifique nous disent que ce n'est encore qu'un œuf. Lorsqu'il y a rencontre entre une ovule et un spermatozoïde, il y aura ovulation, fécondation, mais nous ne sommes pas encore à un être humain en tant que tel. Donc, il n'y a pas de raison de penser qu'à ce stade, on puisse déjà parler de tuer un être humain. Parce que si on considère à ce stade qu'on parle d'être humain, il y a beaucoup de choses qui sont remises en cause. Est-ce à dire que dès le premier jour, il y a déjà un être humain? Non. Je vais simplement, en raison du temps qui m'a été imparti, dire que nous mangeons les omelettes tous les jours, n'est-ce pas? Mais est-ce que à dire que ce sont les poulets que nous mangeons? Nous mangeons les œufs. C'est aussi pour dire que, n'est-ce pas, l'œuf évolue. Lorsqu'il y a un œuf, si nous adoptons la position des religions chrétiennes qui critiquent l'avortement, ça veut dire qu'il y a un rejet où on ne reconnaît pas, par exemple, la fécondation in vitro, où on laisse d'abord couver, n'est-ce pas, pendant un certain temps, les œufs, fussent-ils humains. Donc, les scientifiques ont prouvé qu'en réalité, indépendamment de l'évolution, il y a un problème d'autonomie. Le fœtus doit être autonome, que ce soit la respiration, l'articulation. Or, ce n'est pas avant 180 jours pour nous les juristes qu'on peut dire qu'il y a déjà un être humain. Et ça a un impact sur la qualification des faits. Est-ce que lorsque on agresse une femme qui est enceinte, on parle d'assassinat? Non. On dit que la personne a, il y a meurtre, il y a homicide pour une seule personne, alors que si on épousait la thèse selon laquelle c'était déjà un être humain, logiquement on aurait dû parler de deux homicides. L'assassinat, l'homicide ici ne peut donc pas jouer. Pour tous ces arguments, tu ne tueras point. D'ailleurs, lorsque les religieux nous disent tu ne tueras point, est-ce qu'il n'y a pas eu des guerres de religion? Il y a eu des guerres de religion pendant. Alors, est-ce qu'eux-mêmes respectent ce principe de tu ne tueras point? Non. En réalité, cette conception d'estimer qu'il y a déjà, dès la conception, une âme dans ce qui est à appeler à être un être en devenir, une personne en devenir, elle procède de la conception de Aristote. Et parmi, pour vous dire que tout ça est fondé sur la discrimination, vous savez qu'en principe, on ne connaît pas le sexe des anges. Mais il y a quand même eu une discussion au sein justement de toutes ces saintetés, où d'ailleurs, Thomas, qui est assez crédule, dit que parmi les anges, si on doit considérer ceux, toujours pour la discrimination, pour montrer que la femme est un être un peu à part, Thomas estime donc que les hommes, pour eux, c'est à partir de, je crois, 40 jours où on détecte le sexe, ça veut dire qu'il conçoit quand même qu'il y a évolution, et que pour les femmes, c'est le double. Pourquoi? Parce qu'il faut toujours un peu plus pour elles. Bon, on peut le leur accorder, car cela ne tient pas en réalité. Les arguments, n'est-ce pas, posés par la religion, objectivement, ne tiennent pas la route sur la base des démonstrations scientifiques et pas dogmatiques, parce qu'on comprend que la religion, vraiment, ne fait pas l'objet de débat. Alors, sur le plan social, on nous a dit qu'il y a des stigmatisations. Sur quoi reposent ces stigmatisations? Elles reposent sur la croyance, à raison ici, que
Ce qui importe au plan social, c'est la famille. Et pourquoi? Parce que la famille est le socle, n'est-ce pas, de toute société humaine. Mais de quoi est faite la famille? Il faut procréer. Et qui procrée? C'est bien entendu l'homme et la femme, mais c'est quand même la femme qui porte l'enfant pendant 9 mois. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que la procréation devient un devoir sociétal pour les femmes. Or, les sociétés africaines, avec raison, considèrent que la famille est importante, mais par rapport à la stigmatisation, il y a le fait qu'on considère que c'est la famille légitime qui est positive. Et à partir de là, dès que vous sortez de ce créneau, vous commencez déjà à être stigmatisé. Pour procréer dans la famille naturelle, ça a évolué. Avant, quand vous étiez fille, mère, vraiment, ce n'était pas facile. Aujourd'hui, c'est de plus en plus admis. On ne peut pas dire que c'est permissif, mais alors, dans la procréation, la stigmatisation vient du fait que quand vous ne pouvez pas procréer dans notre société, on ne vous respecte pas ou on vous regarde avec des yeux pas très aimables. Et même quand vous procréez, il y a déjà un souci par rapport à la femme. Pourquoi? Parce qu'il faut, dans cette société patriarcale qui est la nôtre, garantir, n'est-ce pas, la suite, c'est-à-dire l'héritier. Il y a beaucoup de femmes, beaucoup de ménages qui ont été détruits parce qu'il n'y avait pas le garçon, il n'y avait pas l'héritier. Tout ça constitue des valeurs qui font en sorte que quand on sort, n'est-ce pas, de ce schéma, de cette chape, on est stigmatisé à plus forte raison. Donc, quand vous allez avoir une grossesse et que vous songez à tort ou à raison, n'est-ce pas, à l'évacuer. Donc, l'objectif ici pour nous, c'est de dire que les choses évoluent. On devait avoir des enfants, on devait avoir des garçons. Aujourd'hui, il y a quand même égalité, n'est-ce pas, dans la société entre les hommes et les femmes. Ce n'est pas une égalité parfaite, ce n'est même pas celle-là qui est tellement recherchée. Mais c'est la même projection qu'on observe au niveau de la famille. Famille légitime, mais de plus en plus, on observe qu'il y a des familles naturelles avec des familles monoparentales. Je pense même que en regardant ailleurs, les gens ont transcendé le concept de famille au point où ce n'est plus le mariage entre des personnes, n'est-ce pas, de sexe différent, mais plutôt des personnes de même sexe. Donc, je voudrais vous montrer comment l'évolution des mœurs, elle n'est pas égale dans toutes les sociétés, mais c'est ça l'objet de stigmatisation. Quand vous sortez, n'est-ce pas, des schémas. Et enfin, au niveau de la déconstruction, la législation. On l'a déjà dit tout à l'heure, notre législation est assez prohibitive. Je voudrais rappeler à tous, parce que beaucoup de gens disent que dans notre on n'autorise pas l'avortement au Cameroun. Non, ce n'est pas vrai. L'avortement est autorisé au Cameroun, mais il est simplement balisé. Peut-être que nous voulons qu'on desserre un peu les taux, mais on ne peut pas nier, n'est-ce pas, que l'avortement ne soit pas autorisé au Cameroun. On l'a dit, s'il y a viol, les process sont longs, compliqués, mais je tenais quand même à rectifier cela. Cela étant dit, la procédure est compliquée. La procédure est longue. Les gens n'ont pas assez de moyens pour pouvoir, n'est-ce pas, faire face aux dépenses qu'implique l'avortement. J'ai essayé de jeter un regard. Je me réjouis de ce que monsieur le représentant du ministre de la Santé nous a dit qu'il fallait capitaliser des expériences d'ailleurs. Justement, j'en viens, j'ai essayé de regarder ce qui se fait ailleurs. Et j'ai pris 2 pays phares, la France, et vous allez comprendre pourquoi, et les États-Unis, où j'ai eu l'honneur de servir comme enseignante également. Alors, à titre de droit comparé, nous prenons le droit français pour plusieurs raisons. c'est le pays qui inspire, n'est-ce pas, notre législation en raison de l'histoire de nos pays. Je ne l'ai pas pris seulement pour cette raison. Auparavant, pour montrer que nous devons faire un effort, n'est-ce pas, d'évoluer, mais sans mimétisme. Il n'est pas important de faire absolument comme les autres. En France, au lendemain de la guerre, de la Première Guerre mondiale, la Troisième République, l'impact, n'est-ce pas, de la natalité était fort. Au point où, et ça se ressentait sur la législation, je prends la loi du 31 juillet 1920, où l'avortement était considéré comme un crime. Pourquoi? Parce qu'il y avait des politiques de natalité. La France venait de perdre la guerre avec l'Allemagne et il fallait surtout des hommes, la ressource humaine, au point où, quand vous vous amusiez à aller à l'encontre de ceux qui pouvaient procurer la ressource humaine, vraiment, la sanction était forte. La sanction était forte parce que cette loi, je vais prendre deux petits exemples. Deux dames se sont permis d'informer les gens, donner simplement l'information. Elles ont été traduites aux assises. Plus grave, une d'entre elles a pratiqué l'avortement. Vous savez ce qui lui est arrivé? Elle est passée sous le chapeau, purement et simplement décapitée. Voilà dans un pays, n'est-ce pas, où le contexte, je voudrais vraiment qu'on comprenne que le contexte joue, la perception qu'on a à un instant T de la société fait en sorte que la législation soit un peu plus permissive ou non. On peut taxer cette législation de trop sévère, mais en la replaçant dans le contexte où les Français avaient besoin d'aide de ressources humaines, précisément pourquoi, à quoi servait cette ressource humaine? C'était des combattants, parce qu'on était dans l'esprit de la guerre. Je veux présenter ça comme ça, sinon de plus en plus, compte tenu de l'environnement aujourd'hui, beaucoup de gens disent que la ressource humaine, ce ne sont pas les combattants, mais c'est également la chair à canon. Parce qu'on a une perception. Mais en 1975, après mûrissement, n'est-ce pas, de la pensée, de l'observation de la société, il y a eu une loi qu'on dit loi Veil qui a libéralisé, qui a accordé le droit à l'avortement aux Françaises. Ça a été un long processus parce que vous allez voir dans les documents, il y a eu au moins 10 réformes. On a accordé la loi et c'est en cela que je fais des recommandations pour qu'on s'inspire sans toutefois faire du copier-coller de cette loi de 73-75 en France qui a été perfectible et elle s'est améliorée au fil des ans sur beaucoup de critères. Je reviendrai sur ces critères au moment de la reconstruction sur les recommandations. De quel autre pays j'ai voulu parler? Des États-Unis. Des États-Unis, pourquoi? Parce que l'enjeu sur l'avortement aux États-Unis est tel que ça se répercute, comme c'est le cas même actuellement, sur l'élection présidentielle. Il faut prendre position. Il y a deux dates aux États-Unis qui sont importantes quand on parle de l'avortement. Il y a 1973 et 2022. En France, c'est 1975. Aux États-Unis, c'est 1973. Pourquoi? Avant 1973, 4 États seulement, sur plus de 50, avait autorisé, n'est-ce pas, l'avortement. Et en 1973, intervient une décision de la Cour suprême des États-Unis, qui est donc une institution fédérale, qui accorde le droit à l'avortement à toutes les Américaines. Donc tous les États sont astreints, n'est-ce pas, à respecter cette décision. Ça a bien fonctionné pendant 50 ans presque. Mais quand je dis fonctionner, cela n'empêche pas qu'il y avait des tensions parce que les États-Unis est un pays extrêmement clivé sur cette question-là. Vous avez des gens pro-life et les autres pro-choice. Pro-life, c'est ceux qui défendent, n'est-ce pas, la vie et pro-choice qui disent non, on peut choisir. OK? Et arrive donc en 1973, c'est un arrêt contre Wade. tout le monde est content et les tensions ne sont pour autant pas exacerbées, elles ne sont pas calmes. Il y a des lobbies, n'est-ce pas, liberticides, qui militent pour que cette décision, cette juridiction-là soit annulée. Ils vont réussir en 2022, au mois de juin, et donc on revient, n'est-ce pas, à la situation qui prévalait, où chaque État va maintenant être libre de décider s'il accorde ou non le droit à l'avortement. C'était beaucoup, beaucoup, beaucoup de recul. Et il y a même la prime à la délation. Vous savez que les Américains aiment toujours dire « wanted » pour tout, même si on soupçonne seulement que vous avez encouragé les gens à faire l'avortement, on vous donne une prime. Ça vous dit si les gens ne veulent pas du tout en entendre parler. Évidemment, tout ça fait donc que le droit, n'est-ce pas, à l'avortement fait problème dans tout le monde entier. Mais revenons à notre triangle national. Nous avons critiqué parce que la religion s'oppose, n'est-ce pas? Le Cameroun s'est illustré à ce moment-là, vraiment au niveau le plus élevé, le clergé, feu cardinal Toumi de regretter mémoire, avait pris la tête, n'est-ce pas, du combat. Dans la reconstruction, j'ai reconsidéré, pas les mêmes secteurs, mais le droit, j'ai reconsidéré le volet médical et enfin les politiques. Alors, commençons par l'encadrement médical. S'il faut changer, je voudrais rappeler ici qu'il ne s'agit pas de la libéralisation, n'est-ce pas, de l'avortement, mais simplement un assouplissement pour que tout le monde trouve son compte. Alors, je voudrais m'appesantir pour cet encadrement médical sur la charte dite de Livingston. Les gynéco-obstétriciens dans la salle ou ailleurs savent que c'est vraiment quelque chose de positif. C'est une charte qu'on applique dans 11 pays africains seulement sur les 54, mais parmi lesquels compte heureusement le Cameroun. Et cette charte a 7 points prioritaires, les soins sécurisés, l'information, n'est-ce pas, la dépénalisation et également qu'on mette l'accent, la discussion avec les jeunes, les groupes vulnérables parce qu'ils sont stigmatisés et les gens se cachent. C'est ça qui fait en sorte qu'on dise que maintenant, non, l'information doit passer. Et j'ai eu le bonheur de suivre le président de l'association camerounaise qui n'est autre de gynéco-obstétrique, qui n'est autre que le professeur Mboudou, qui est très positif dans son analyse, mais il est lucide, il est réaliste. Il dit que oui, ils ont signé la charte de Livingston, mais il y a quand même des blocages, il y a des résistances. C'est pour ça que lorsque Madame la sénatrice bat le tam-tam pour que tous on converge, qu'on devienne des combattants, c'est vraiment pour dire que... Et ce n'est pas un problème uniquement médical. C'est un problème juridique, c'est un problème moral, c'est un problème religieux. Tout le monde est concerné. Et donc, cette charte a procuré beaucoup de choses dont il fallait s'inspirer. Pour le moment, elle est déjà opérationnelle au Cameroun, mais il y a quand même des problèmes. Au niveau de l'apport juridique, il faut changer la loi. Il faut la changer, mais comment? On espère, n'est-ce pas, que les techniciens, c'est-à-dire les professionnels de santé, vont permettre aux juristes de travailler. La logistique n'est pas les compétences en matière médicale. Donc, ils permettent de comprendre, de donner une définition appropriée de l'avortement avant qu'on puisse sanctionner. Et même lorsque nous parlons de la dépénalisation, il faut les gens, les professionnels de santé et nous avec, pensons, dans l'intérêt de la société, qu'il faut supprimer les sanctions aussi bien civiles que pénales. Et enfin, alors, au niveau, n'est-ce pas, de l'administration et des politiques, Il faut choisir en fonction de l'intérêt de l'enfant et de la femme. Est-ce que nous voulons avoir des politiques natalistes ou non? Est-ce que nous voulons avoir des politiques qui tiennent compte de l'intérêt de la femme ou de et de l'intérêt de l'enfant? Ça, c'est très important pour qu'on puisse donc conclure, et c'est mon propos. Je dis donc que, en apportant, n'est-ce pas, l'allée de la clarification des valeurs dans la croisade contre les avortements clandestins dans d'autres pays, l'apologie de ce fléau était écartée. Donc nous ne disons pas, oui, on va tout libéraliser, les filles, allez-y, non. Et si la fémocratie n'a pas encore droit de citer dans la sphère publique, d'une part, il faut définitivement jeter aux oublis le déni persistant à la femme de son droit de disposer librement de son corps, tel que diversement énoncé, n'est-ce pas, dans l'article 14 du protocole de Maputo. Pourquoi j'ai parlé de déni persistant? Parce que déjà, les rédacteurs du Code civil de 1804 en France, qui nous inspirent, avaient déjà tenu des propos vraiment insoutenables et en ces termes. La femme est donnée à l'homme pour qu'elle fasse des enfants. Elle est donc sa propriété, comme l'arbre à fruits est celle du jardinier. Je dis que ma réponse est, il est indispensable de se convaincre, n'est-ce pas, pour la majorité, hélas, qui doute encore que tant bien dans le triangle national, c'est-à-dire au Cameroun et même au-delà, on ne naît pas mère, on le devient et on devrait le devenir par choix délibéré. Mesdames, Messieurs, distingués invités, Excellences, j'aurais été honorée de votre bienveillante écoute. Merci.
Est-ce qu'on peut applaudir encore très fort?